Les nuits de France Culture.
Depuis sa disparition prématurée en 1982, le journaliste musical Lester Banks est auréolé d'un prestige ambigu. Prestige qui tient autant à la qualité reconnue de ses textes, qui compte parmi les moments de bravoure de la critique rock américaine, qu'à son statut de martyr de la cause du rock. En disparaissant des suites de ses excès à seulement 33 ans, il a rejoint d'une certaine manière les grandes idoles, les grands mythes du rock, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix. Mais cette reconnaissance n'est-elle pas contradictoire avec l'attitude que Lester Banks lui-même prônait à longueur d'articles et le peu de cas qu'il faisait des maîtres à penser dans tous les registres, du journalisme à la musique? Dans cette émission, qui est le dernier temps d'une série de Chemin de la musique consacrée à Lester Banks, vous allez entendre la voix d'un autre critique musical, Nick Kent. Nick Kent qui s'interroge justement sur les incohérences de cette reconnaissance générale du génie de Lester Banks. En fin d'émission, une voix sans doute familière, celle de l'écrivain Michel Houellebecq, qui se lança un temps dans l'aventure du rock, notamment avec le groupe AS Dragon, et qui évoque ici son rapport au journalisme musical à travers quelques souvenirs de lecture de jeunesse du magazine Rock et Folk. Ce que raconte au fond cette émission, c'est l'épopée d'une musique, le rock, qui a toujours été indissociable des mythes bâtis autour de lui. Lester Banks est-il mort en vain, ou le romantisme du rock ? C'est le titre de cette émission, diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 juin 2000.
The number you have reached has been disconnected.
I haven't thought about Lester.
Lou Reed.
In ages. Oh, maybe, we weren't really that close.
Lester Banks.
À la base, j'ai développé mon mode d'interview en posant aux artistes les questions les plus insultantes qui soient. Parce que le mot critique est terriblement ennuyeux, qu'il faut jurer obédience aux rockstars qui sont des personnes comme les autres. Ce sont des gens comme les autres. Le rock, c'est quelque chose qui doit vous faire sentir en vous. C'est quelque chose qui reste humain. Pour moi, le rock, c'est Elvis, Hank Williams ou Charlie Mingus.
J'étais de toute évidence brillant, un artiste doué, un mâle sensible qui n'avait pas peur de montrer ses faiblesses, l'une des rares personnes comprenant réellement ce qui n'allait pas dans notre culture, sujet sur lequel je parlais, donnais des leçons improvisées sans arrêt, surtout quand j'étais ivre, ce qui arrivait fréquemment, bien que pas tous les soirs. J'étais drôle, j'avais un sens de l'humour féroce, j'étais un individu vraiment unique et imprévisible, un artiste rock. J'étais probablement, sinon aujourd'hui, du moins demain, candidat au titre de meilleur écrivain d'Amérique. Qui était meilleur ? Bukowski ? Brooks ? Hunter Thompson ? Laissez tomber, j'étais le meilleur. Je n'écrivais pratiquement que des chroniques de disques, et encore pas tant que ça.
Lester Banks est-il mort en vain ? En 1978, galvanisé par la mode punk, Lester Banks forme son propre groupe, Birdland. Il se produit dans quelques salles, en première partie des Heartbreakers de Johnny Thunders et Richard Hell. Lors de leur dernier concert à San Francisco, Johnny Rotten des Sex Pistols lance à la foule: vous n'avez pas l'impression de vous être fait avoir? Dans son livre Lipstick Traces, Ray Marcus met en évidence les liens qui unissent le mouvement punk aux situationnistes. S'il est certain que Johnny Rotten ou Sid Vicious n'ont jamais entendu parler de Ralph Romney ou de Guy Debord, leur manager Malcolm McLaren en était par contre un lecteur assidu. Le punk, que Lester Banks avait tant appelé de ses vœux, s'est révélé être la plus grande escroque du rock. Les managers des Clash et des Sex Pistols étaient certainement de grands publicistes, mais pas de grands révolutionnaires. Le punk n'est finalement qu'un produit, où l'on peut se confectionner une panoplie qui a ses slogans, les fameux « Destroy » et « Nos futurs ». Et, comme l'écrivait Walter Benjamin, les slogans édictés par une critique inadéquate finissent dans la mode.
Nick Kent, critique rock, écrivain.
Les types comme Bernie Rhodes, le manager des Clash, ou McLaren pour les Sex Pistols, ils ont dépolitisé le rock, ils lui ont donné un côté pratique. Sid Vicious, tout ça, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Rien. C'est comme Oasis, c'est un produit. Regardez MTV, la propagande.
On
vous montre ce qu'il doit vendre, mais on vous dit de ne surtout pas regarder derrière. C'est d'ici que vient le problème. Le rock a toujours été un média superficiel, et la pop encore plus. C'est intéressant quand ça englobe un contexte plus grand, quand c'est important. Les Beatles avaient cette profondeur. Ils venaient de la working class, mais ils n'étaient pas là pour gagner de l'argent et acheter des Rolls Royce. Ils sont devenus spirituels, ils ont grandi et ils ont fait grandir leur musique. Oasis, c'est complètement l'opposé de cela. C'est juste un cliché. Si vous êtes anglais et que vous comprenez le système des classes, la manière dont Oasis et les Spice Girls parlent de la working class, c'est on vient de là, on n'est pas très futé, alors achetez-nous car nous sommes comme vous. Nous ne vous menacerons jamais, nous ne vous forcerons pas à réfléchir, nous sommes idiots, nous sommes comme vous, vous nous aimez. Voilà qui n'a rien à faire avec le rock'n'roll. C'est de ça que parlait Lester Banks. Pour lui, le rock est un moyen de dire à la jeunesse: réveillez-vous, osez penser par vous-même, n'utilisez pas les idées des autres, sinon vous allez couler.
Le punk est le détournement situationniste poussé à son extrême. De ce mouvement si rapidement avorté surgira la New Wave et son horreur technologique. C'est l'ère des machines et d'une imagerie romantico-gothique qui tranche cruellement avec l'esthétique romantique revendiquée par Lester Banks et par les groupes des années 70. Ce sont Kraftwerk, puis plus tard Suicide, qui initient ce passage à la New Wave. Des voix spectrales, des synthétiseurs et des rythmes binaires, comme si l'on cherchait à s'affranchir définitivement de la spontanéité et de l'humain. Au début fut le feedback, écrit Lester Banks dans une chronique sur Kraftwerk parue en 1975. Des machines parlant toutes seules, répondant à leur maître supposé par des hurlements de mésalliance. Peu à peu, les humains ont appris à les contrôler, ou du moins c'est ce qu'ils ont cru. Et le pas suivant fut l'introduction de formes hautement plus raffinées de distorsion et de sons artificiels, sous la forme du synthétiseur, que les humains cherchèrent également à contrôler. Dans la musique de Kraftwerk, nous voyons enfin la culmination nécessaire de cette révolution, car les machines ne se contentent pas de dépasser les humains en puissance, mais les absorbent, jusqu'à ce que le savant et sa technologie ne fassent plus qu'un. La musique de Kraftwerk est un réquisitoire contre tous ceux qui voudraient résister à une volonté de fer et à l'ordre de l'aube inéluctable de l'âge de la machine. C'est le début de la fusion chair-métal, homme-machine. On
on rapporte une phrase de William Burroughs qui dit qu'il est possible de provoquer une émeute à l'aide de deux magnétophones. C'est ce qu'ont compris les robots de Kraftwerk et plus tard, les musiciens de techno. La théorie souvent développée par les critiques, et notamment par Lester Bangs, est de considérer que le rock est le descendant direct de la poésie romantique. Un art basé sur la spontanéité, sur la culture populaire et sur l'exaltation de soi. Mais ce qu'apportent les groupes de New Wave, de Cold Wave et le courant nouveau romantique, c'est avant tout la fascination pour la mort et des prières pour la création d'un homme nouveau, issu de la technologie. Le groupe Devo chante « Question, sommes-nous humains ?» Réponse, nous sommes Devo. Comme si les punks, après avoir tout détruit jusqu'à leur corps, s'attelaient à la reconstruction de l'homme par le biais de la technologie. Le musicien s'efface peu à peu au profit des machines, c'est le son qui devient star, et les icônes de la pop sont rangées au placard des musées du rock. Au moment où meurt Lester Bangs, en avril 1982, à l'âge de 33 ans, il est sur le point de publier ses Greatest Hits comme un chanteur de rock. Ce qui rend son personnage si fascinant, ce n'est pas tant son héritage ni ses théories sur le rock. C'est que, comme Jim Morrison, Jimi Hendrix ou Sid Vicious, il fait partie de ces personnages morts pour la cause. Aux yeux des fans, il est donc intègre. C'est une cruelle ironie de voir que Lester Bangs, finalement, a terminé comme ces mythes qu'il détestait tant. Le romantisme du rock aujourd'hui se réduit à cette fascination de la mort.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les critiques citent Banks parce qu'il est mort. Cette mort groovy du rock'n'roll. Si vous êtes mort, vous avez réussi, même si vous étiez médiocre. Le rock, c'est, si vous êtes mort, vous êtes au top. On organise des hommages, mais que fait-on pour les gens qui sont encore en vie? Si Jimi Hendrix était vivant aujourd'hui, il jouerait au New Morning.
It's a fact, okay? It's a stone-ass fact.
Tous ces gens, Sid Vicious et compagnie, s'ils étaient encore en vie, ils seraient dans des chaises roulantes. On leur cracherait dessus où qu'ils aillent, parce qu'à leur âge, ils représenteraient le pire aspect du rock'n'roll. Les gens veulent les revoir dans leur jeunesse triomphante. C'est ça qui me terrifie aujourd'hui dans le rock. C'est que le rock est devenu un média réactionnaire, un média morbide.
And so, you know, poor old Lester gets caught up in it, and Lester wouldn't have liked it. Nor would have Jim Morrison,
Lester Banks, les types qui ont vraiment fait les choses à cette époque, de toute manière, on les aurait assassinés. John Lennon, on l'aurait au moins assassiné une deuxième fois. Ou alors, il se serait tué s'il avait vu les choses qu'on fait aujourd'hui en son nom. Le rock, c'est un grand livre d'action. Ce sont de jeunes gens dans des situations potentiellement dangereuses. Vont-ils survivre? Vont-ils mourir? Vont-ils être victimes de leur propre vanité? Le rock, c'est un combat entre des superstars et des esclaves dans une arène. Et c'est drôle d'observer cela de l'intérieur. Les superstars prennent rapidement l'avantage sur les esclaves, on les voit perdre leur humanité, petit à petit. C'est intéressant, regardez. Un bon livre rock serait peut-être tout simplement Gatsby le Magnifique.
Quelques jours après la mort de Lester Banks, les Américains peuvent contempler sur leur télévision un spectacle étrange. Michael Jackson est à la Maison Blanche. Il reçoit un prix du président Ronald Reagan pour avoir laissé utiliser son titre « Beat It » dans une publicité contre l'alcoolisme des jeunes. Dans le film publicitaire, on peut voir le doigt d'un squelette toucher celui de l'artiste. Le rappel avec la fresque de Michel-Ange sur la chapelle Sixtine est inévitable. Michael Jackson n'est plus une star, il est en train de devenir Dieu. C'est le début d'une nouvelle ère pour le rock. Jusqu'ici, la presse magazine était finalement le seul miroir de cette musique. Des écrivains comme Lester Banks ou Yves Adrien en France reflétaient dans leurs textes toutes les interrogations que leur posait cette musique sans jamais totalement lever le voile, le mystère. Mais l'accélération de la consommation, l'arrivée du compact disque, les rééditions de catalogues avec opérations de promotion à la clé nous font passer de l'autre côté du miroir. Des chaînes de télévision musicale voient le jour et le rock se retrouve propulsé sur le devant de la scène avec l'impératif catégorique de vendre à tout prix. Lester Banks savait que le rock était un média simple, que les artistes n'étaient ni des leaders d'opinion, ni de grands penseurs, et que la motivation principale de la plupart des rockstars est l'enrichissement et le sexe facile. C'est que probablement le dernier bastion du romantisme rock se cache aujourd'hui dans la critique. La critique de Banks tient de l'art romantique, de Baudelaire écrivant sur Wagner, d'Oscar Wilde aussi. Quand Lester Banks écrivait sur la musique, il l'écoutait attentivement pour ensuite la reproduire par l'écriture, passant en cela de l'impression à l'expression. Ce sont les critiques, et en particulier Lester Banks, qui ont réussi à donner du sens au rock, pas les musiciens. Qu'est-ce qu'un disque de rock? C'est un musicien, disons Robert Quine, un poète, Bob Dylan, un chanteur, Elvis par exemple. L'écrivain du rock, lui, est tout cela à la fois. On parle souvent de littérature du rock sans jamais vraiment pouvoir la définir. S'agit-il de recueils de critiques, de romans dont les thèmes peuvent faire penser aux préoccupations des musiciens comme la drogue et le sexe, d'une écriture rapide et violente comme un accord de guitare? La vérité est probablement qu'il n'existe aucune littérature du rock, mais que cette musique représente seulement une forme d'inspiration pour certains auteurs, et que, sans le rock, Lester Banks ou d'autres n'auraient probablement pas eu envie d'écrire. Michel Houellebecq.
J'ai pas mal lu Rock and Folk. J'adorais les lettres de lecteur et certains articles aussi, certains interviews qui étaient vraiment bien. Parce que ça installait une ambiance. C'est-à-dire déjà quel hôtel choisissait la rockstar. Est-ce que c'était un palace? Ou bien Lou Reed, c'était plutôt petits hôtels du 6e arrondissement un télo. Et bon, il y avait tout un tas de notations sur la chaleur de l'accueil, si les gens boivent ou pas, qu'est-ce qui se passe pendant l'interview. Donc c'était des... Oui, c'était une espèce de petite création littéraire, oui. J'étais sensible à ça. Déjà, la difficulté d'avoir une interview ou pas, enfin, la disponibilité du type, son humeur. Donc ça faisait comme des petites nouvelles avec un héros, quoi. Mais sinon, j'adorais certains mythes créés par Rock'n'Folk. Bon, par exemple, j'aime beaucoup, en fait, le premier disque de Pink Floyd, avec Syd Barrett. Si le mythe Syd Barrett s'est longuement poursuivi, sans qu'il n'y ait plus jamais rien que j'écoute, en fait. Pas simplement parce qu'il n'a plus rien fait, en fait. Enfin, mais j'aimais beaucoup ce mythe, enfin, ça me touchait beaucoup, ce côté autiste qui se dé chez lui. Pour moi, c'était un peu un personnage de roman, Syd Barrett. D'être défendu par les Incorruptibles, c'est le truc le plus naturel qui me soit arrivé dans ma vie, parce que j'étais déjà un lecteur régulier des Incorruptibles, formule mensuelle. Donc c'était mon univers. Donc qui s'intéresse à moi, j'étais très content. C'était une des grandes joies de ma vie. Mais c'était pas une surprise, quoi. C'était une même appréhension du monde, même référence culturelle, je sais pas trop, mais ça m'a paru naturel. C'est même surprenant que la rencontre soit produite avant, en fait.
Au niveau du dallage, il faudrait que je meure ou que j'aille à la plage. Il est déjà 7 heures. Probablement, il dort. Je sais qu'ils seront là. Je sors de l'hôtel. Je sais qu'ils me verront et qu'ils auront des shorts. J'ai un schéma du cœur près de l'artère aorte. Ils ont fait demi-tour. La journée sera belle. À l'horizon, nul cri dans les nuages. La journée s'organise en groupe d'habitude. Et certains retraités ramassent les coquillages. Tout respire le plat, le blanc, la finitude. Un Algérien balai. Ouvre les baies vitrées, son regard est pensif. Sur la plage, on retrouve.
Si l'on devait penser un condensé de ce pourquoi Lester Banks s'est battu, on pourrait citer cette phrase de Nick Cohn. Le rock, c'est comme un western sans fin, avec cette même simplicité biblique, le même pouvoir de créer des légendes à partir de clichés. Il n'est pas doté d'un cerveau, il s'est toujours contenté de saisir les courants, les ambiances, les obsessions des adolescents et de les figer en images. Il s'est fabriqué des caricatures géantes du désir sexuel, de la violence, de la romance et de la révolte. Il en a fait les plus puissantes et les plus pertinentes de cette époque. Et puis, au-delà des héros, au-delà de tout, il y avait le boucan. Un rythme sans fin, parfait et inaltérable. Le bruit était tout.
I miss my baby and I feel so bad. I guess my race is run.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 juin 2000.